France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est Tigran Yegavian. Un jour de 1984, Milan Kundera, l'écrivain tchèque, était invité chez Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe pour la sortie de son livre, son roman célèbre, L'insoutenable légèreté de l'être. Bernard Pivot dit alors à l'écrivain « C'est compliqué, cher Milan, de savoir comment commencer avec votre livre parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. » Ce à quoi Kundera répond « En effet, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de bouts. » Et j'ai repensé à cette entrée en matière en lisant votre dernier livre, Escale arménienne, parce qu'il y a plein de bouts là aussi, ou pour le dire autrement, il y a plein de points d'escale. C'est vous-même qui m'avez donc proposé une destination claire, faire escale dans une ville aussi célèbre que méconnue, Bolis. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors Bolis déjà, ça vient d'où hein ? C'est le nom grec de Constantinople, donc actuellement Istanbul, mais c'est aussi un nom que les Arméniens ont en partage avec les Grecs. C'est historiquement la capitale de l'Arménie occidentale, le pôle culturel d'où moi je viens, enfin d'où vient mon peuple, les Arméniens occidentaux, qui sont un peu différents des Arméniens orientaux, qui avaient comme capitale Tiflis, hein, l'actuel Tbilissi. Et c'est un lieu en Géorgie, et c'est un lieu que j'ai habité journalistiquement, poétiquement, dans une séquence historique très excitante. C'était dans les années 2004 à 2008, 2009, où il y avait une véritable ouverture en termes de respiration et d'effervescence aussi politique. C'était un contexte d'ouverture démocratique. Et donc j'ai eu l'occasion de séjourner à Istanbul et de connaître mieux la communauté arménienne d'Istanbul et surtout comprendre que j'étais dans un no man's land, c'est-à-dire que je n'étais pas en diaspora, je n'étais pas en Arménie non plus, puisque si vous dites à un Arménien de Bolis qu'il est diasporique, il le prendra mal, puisque ça fait plus de 1000 ans qu'il y a au moins une présence continue institutionnelle arménienne. Donc c'est des très très beaux souvenirs que je retrace à travers la réécriture d'articles que j'avais fait pour le magazine France-Arménie, que j'ai revisité, que j'ai retravaillé, dans le souci premier de transmettre. Parce que quand on a reçu une transmission, on a une responsabilité. C'est pas un devoir, c'est un acte amoureux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, Escale arménienne, qui rassemble beaucoup de fragments diasporiques.
Nous allons rentrer dans certains de ces fragments, mais je reste encore un instant sur la notion de Bolis. Faisons un peu d'archéologie. Bolis, donc ça vient, vous l'avez dit,
la ville,
c'est ça, c'est Constantinopolis, Bolis, un peu comme les Italiens disaient la città pour parler de Rome, et on pouvait dire aussi Istanbul. Est-ce que c'est une expression répandue, Bolis ?
Alors chez les Arméniens, oui, on ne dira jamais Istanbul. Bolis, et puis surtout, c'est une manière de distinguer les Arméniens de Bolis, les Bolsa Hai, qui ne sont pas comme les Spulka Hai, les Arméniens diaspora, ou les Hayastansi, c'est les Arméniens d'Arménie. Donc c'est une identité à part, un peu comme les Arméniens de Jérusalem, hein, qui sont vraiment très très différents des Arméniens du reste du Moyen-Orient. Mm-hmm. Et ce qui fait la marque de fabrique, entre guillemets, de Bolis, c'est que on n'a pas du tout le même rapport à l'espace et au temps. Mmh. Et ça, le logo, c'est le chronos. C'est fascinant. Le temps ne s'est pas arrêté à Bolis, alors qu'il s'est figé en diaspora. Le temps arménien s'est figé en diaspora parce que les élites arméniennes ont été décimées par le génocide. Il a fallu repartir de zéro en situation de dispersion. Et la culture arménienne a eu du mal à se réconcilier avec une forme de modernité. Alors que le fait est qu'en Turquie, vous êtes en Turquie, donc vous êtes un peu des otages du récit nationaliste négationniste turc. Certes, il y a un déni. Donc ça veut dire que le génocide n'a pas existé officiellement. Donc les Arméniens de Bolis ont survécu. La stratégie qu'ils ont employée, c'est de faire vivre une culture arménienne, mais différemment que celle qui était vécue dans le cadre diasporique, dans lequel le marqueur identitaire premier était la mémoire du génocide. Mmh. Alors, je n'ai pas dit que les Arméniens de Bolis ignorent le génocide, mais ils n'occupent pas une place aussi centrale.
Ils ne sont pas réduits à cette dimension-là, à la question mémorielle.
Ni à la question d'être des otages. Mmh. Donc, c'était absolument fascinant de voir à quel point les Arméniens de Bolis faisaient corps avec une certaine forme de modernité qui n'existait pas dans la diaspora, et c'est ce qui m'a beaucoup fasciné.
Et alors, vous avez arpenté des quartiers arméniens d'Istanbul, vous en parlez dans votre livre, Kumkapı, Samatya, en passant par Balat et Kurtuluş, près de Taksim, Kurtuluş. Que reste-t-il aujourd'hui de cette présence chrétienne, j'allais dire au sens large, c'est-à-dire arménienne bien sûr, mais aussi grecque, dans la ville et dans la mémoire et dans les langues ?
Eh bien, disons que c'est un peu la peau de chagrin, parce que vous avez quand même, proportionnellement parlant, une démographie déclinante, des Arméniens qui, pas forcément...
Combien on a d'Arméniens à Istanbul ?
C'est très difficile d'avoir des statistiques ethniques, parce que vous devez prendre en compte les Arméniens de Bolis, qui, historiquement, qui sont de la ville, ils sont très très peu nombreux, et les Arméniens d'Anatolie. C'est des Arméniens qui sont arrivés d'Anatolie dans les années 40, 50, 60 du siècle dernier, et qui ont une place un petit peu à part. C'est un peu comme des paysans parvenus, mais ces gens-là aussi font l'identité de Bolis, donc 50 000, 60 000 à peu près, et puis à cela s'ajoute la communauté transnationale des émigrés d'Arménie, ah oui, qui eux ça. Sont des Ayastansi, qui vont exercer des professions, on va dire, intermédiaires, beaucoup de femmes de ménage, un peu de prostitution aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, et on remarque que ce sont des communautés qui se côtoient, mais qui se...
Oui. Ils vivent toujours dans les mêmes quartiers ?
Qui vivent dans les mêmes quartiers, oui, parce que Osman Bey, Kurtulu, je vous l'avais cité, est le quartier, l'ancien quartier de Péra, enfin le nord de Péra, donc Galata, c'est la Constantinople chrétienne, grecque et arménienne. Alors, là où il y a le patriarche arménien Kumkapı, non, il y a très peu d'Arméniens qui restent. Ça maintient un petit peu, mais c'est des quartiers qui ont connu une vraie transition, enfin, un vrai bouleversement démographique, du fait de l'image de la Turquie contemporaine. Donc c'est une communauté qui reste encore relativement faible, numériquement stable. Puis il y a aussi l'assimilation, ce qui est un phénomène nouveau, qui est de plus en plus répandu, et qui est notamment dû au mariage mixte, le mariage entre Arméniens et Turcs. Ah oui. Ce qui peut paraître comme une anomalie en France, en Turquie c'est tout à fait normal, parce que vous avez des couples qui se fréquentent, qui tombent amoureux, et puis qui se marient, donc forcément les enfants ne vont pas forcément garder la culture arménienne.
Vous avez mentionné le patriarcat. Alors pour être bien clair pour nos auditeurs, il y a en fait deux patriarcats importants à Istanbul. Il y a le patriarcat arménien de Constantinople, qui fut longtemps sous l'Empire ottoman le représentant auprès du sultan de toutes les églises non chalcédoniennes, donc les Syriaques, les Éthiopiens, les Coptes. Et il y a aussi le patriarcat œcuménique de Phanar, grec. Donc c'est quoi les relations entre ces deux patriarcats ?
Écoutez, 1453, c'est la chute de Constantinople, donc Byzance tombe. 1461, instauration du patriarcat arménien. Donc la sublime porte, le sultan ottoman se dit, on va diviser pour régner, il faut affaiblir donc la présence grecque. Donc il va demander à son ami l'évêque arménien de Bourousse, qui était de l'autre côté de la mer de Marmara, de déménager à Constantinople et d'incarner ce qu'on appelle le Millet Bashi, c'est-à-dire la tête de la communauté arménienne ottomane, dans le schéma classique de ce qu'on appelle le Millet. Ulysse, le Millet c'est quoi ? C'est un système d'auto-administration autonome pour les non-musulmans sunnites. Et pendant des siècles, donc, c'était le patriarche qui était en fait, le patriarche qui était... le représentant de la nation arménienne ottomane, et il avait des prérogatives très étendues. Et donc, il y avait tout un système d'autonomie interne, il y avait une fiscalité interne, des prisons aussi, une assemblée parlementaire interne, et aussi, je dirais, un statut d'infériorité institutionnalisé. Mais vous savez, l'histoire des Arméniens de Turquie, de l'Empire ottoman, est une histoire, je dirais, avec des hauts et des bas. Vous avez une aristocratie arménienne ottomane avec les amirats, le monopole notamment dans la poudre, et puis vous avez une paysannerie en Anatolie qui vit dans un état de servage sous le joug turc, kurde et circassien, et qui a été persécuté à mesure que la question d'Orient gagnait de l'ampleur, c'est-à-dire à partir du 19e siècle.
Et qu'en est-il aujourd'hui de ces relations entre les deux patriarches ?
Ah oui, alors les relations sont plutôt cordiales, coordination constante. Je veux dire, vous savez, depuis 1923 que la République de Turquie a mis un terme à toutes les capitulations occidentales. Donc le traité de Lausanne a institué des droits culturels pour les minorités chrétiennes et juives. Et donc dans le cadre de ce traité, qui est très très inégal et qui signe la mort de la question arménienne, en tout cas enterrée par les puissances occidentales, les communautés grecques et arméniennes de Constantinople et de Turquie bénéficient encore de biens de main morte de Vakov, ceux qui n'ont pas été séquestrés. Et donc il y a une coordination continue et je dirais même une relation d'entente très... très marqué. C'est-à-dire qu'il y a une amitié très forte entre les Arméniens et les Grecs. Moi, j'ai toujours été marqué à Constantinople de voir que les Grecs se mêlaient à nous, on se mêlait à eux.
Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes allé voir de temps en temps des offices grecs ?
Oui, j'allais souvent. Alors, j'ai un très bon souvenir de la Pâque, la messe de Pâque qui ne tombait pas le même jour que la Pâque arménienne à Fener. Ça, c'était un moment très intéressant parce que j'ai jamais vu autant de Grecs à Istanbul et qui venaient de Grèce pour cet événement. Des couples mixtes aussi, mais nous, en fait, on ne fait pas tellement la différence. Je veux dire que les Arméniens d'Istanbul, quand on allait à la messe, on aimait bien aussi aller chez les Grecs, même si c'est pas le même dogme. Nous, on n'est pas chalcédoniens, ils le sont. Mais je dirais l'entente est parfaite. Et puis surtout, ce statut de minoritaire, ce statut de résilience, de résistant au rouleau compresseur turco-kémaliste et maintenant islamo-nationaliste turc, favorise des ententes tout à fait évidentes.
C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui me touche dans votre approche, c'est que vous avez un ancrage arménien qui vous permet en fait d'avoir un œil sur toutes les minorités transnationales, translinguistiques, les minorités chrétiennes, et puis même, j'allais vous dire, au-delà des christianismes orientaux, les minorités culturelles du Moyen-Orient, parce que vous parlez aussi des Kurdes, vous parlez des Yézidis, des Juifs, etc. À Istanbul même, et puis plus largement en fait en Anatolie, en Turquie, quelle est votre relation à ces cultures transversales des minorités culturelles? C'est une question très vaste, je vous demande pardon, hein, c'est un peu assommant.
Non, elles sont les gardiennes d'une mémoire collective qui est en train de s'estomper. C'est une gardienne précieuse, il ne faut pas qu'elle devienne des gardiennes d'un musée. Et moi, ce qui me porte à travailler, parce que bon, je ne me suis pas complètement présenté, je travaille aussi à l'Institut chrétien d'Orient comme chercheur, et notre institut œuvre à la connaissance, à la transmission, mais aussi au refus de la victimisation. Et je crois que ce qui fait la force de ces minorités, donc visibles et invisibles, de Turquie, de Syrie, d'Irak, c'est qu'elles ont des diasporas, et que ces diasporas sont appelées à jouer un rôle majeur dans la redéfinition d'un nouveau récit. Je crois que ce qui m'a beaucoup consolé, entre guillemets, en Turquie, c'est de voir que, même si on ne peut pas refaire l'histoire, et que la tragédie du génocide est une plaie béante, puisqu'il y a un déni qui se poursuit, il y a la haine qui est toujours là, la haine contre les chrétiens, le syndrome de Sèvres, la hantise de voir des ennemis partout. Hein. Ça, c'est quelque chose de très très probant, et je le raconte aussi dans le livre où je vais sur le lieu de mes ancêtres, hein, le village de mes ancêtres à Lapkir. Cette haine, elle est là. Mais à côté de ça, il y a des crypto-arméniens, des crypto-grecs, des crypto- des kurdes aussi, des Turcs de progressistes qui connaissent parfois mieux notre histoire. Parce qu'ils ont aussi une transmission, ils ont du sang arménien, grec, chaldéen qui coule dans leurs veines. Et ça me fait penser que ce qui peut sauver en fait l'avenir de la chrétienté, c'est de redéfinir les critères d'appartenance identitaire. C'est-à-dire, je pense à la figure de Harald Dink, le grand journaliste assassiné en 2007. Et bien, quand il est mort, on s'est dit, il était arménien. Il était de Turquie, mais il était d'abord anatolien.
Dites-nous juste un mot très
Harald Dink, c'est l'architecte du dialogue arméno-turc. Grand journaliste, c'est un peu le Che Guevara arménien, très courageux. Il fonde en 1996 un journal, Agos, qui veut dire le sillon. C'est le premier journal bilingue, enfin plutôt turcophone. La décision d'Harald Dink est claire, c'est quelqu'un qui vient de la gauche, il était maoïste. Il veut décloisonner la communauté arménienne de Turquie parce qu'il était complètement, bouleversé par le discours de haine, de propagande anti-arménienne dans les médias turcs. Il voulait faire entendre la voix des Arméniens dans l'espace public turc et il y est parvenu. Ouais. Il y est parvenu parce que...
Au prix fort,
Oui, mais il a touché une très très forte audience. Ce qui fait qu'il y avait des vraies passerelles avec les intellectuels turcs de gauche et kurdes et Alevi aussi qui écrivaient dans Agos. Et c'est vrai que ce qu'il a fait est absolument exceptionnel.
Et comment a-t-il fini ?
Assassiné le 19 janvier 2007 dans la rue de sa rédaction par un jeune ultranationaliste, mais on sait très bien, on le sait, que c'est l'État profond turc, c'est-à-dire qui a instrumentalisé cet assassinat, parce que ce qu'écrivait Rant était beaucoup trop, corrosif pour le récit national turc. Ses problèmes ont commencé lorsqu'il a publié un article attestant qu'une des filles adoptives de Mustafa Kemal Atatürk était arménienne, la fameuse pilote de chasse dont un des aéroports d'Istanbul porte son nom. Donc c'était touché aux lignes rouges. Donc c'était quand en Turquie, je parle du syndrome de Sèvres, c'est-à-dire que la Turquie est un pays qui vit sur l'état de nation turque, qui a été construit sur le cadavre des Arméniens, des Assyro-Chaldéens,
des peuples des Balkans,
absolument,
aussi, avec les janissaires, etc.
Et donc remettre en question ce récit, c'est de toucher aux fondamentaux, aux fonds baptismaux, et Harald Dink est allé un peu trop loin sur ce plan.
Mais il y a quand même une chose, parce qu'on sent une sorte de chagrin mélancolique et amer dans votre voix, et paradoxalement, en lisant votre livre et puis en écoutant vos entretiens, on sent aussi une sorte de tendresse arménienne pour Istanbul.
Complètement, parce qu'en fait, Istanbul, c'est chez nous. Enfin, je veux dire, on a une histoire, toute notre littérature arménienne occidentale qui s'est construite à partir du début 19e siècle avec le réveil le Zaltung, donc le réveil, c'est le mouvement proto-national arménien, a été écrite à Constantinople par des écrivains constantinopolitains. Donc tous ces lieux nous sont familiers. Et puis nous avons de la famille, nous avons des références, nous avons la langue turque aussi en partage, l'arménien et le turc coulent dans nos veines parce qu'il y a un métissage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que ça fait partie de nous-mêmes. Alors c'est très inaudible pour une voix chauviniste nationaliste qui va dire non, pas de mot turc. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec entendre le mot turc parce que j'ai l'impression que dans une vie intra-utérine, j'ai entendu le turc et je le parle et je n'ai pas honte de le parler. J'aime écouter de la musique turque, j'écoute Sezen Aksu, j'écoute Zeki Müren, j'ai beaucoup d'affection.
Sezen Aksu, elle est aussi un type arménien, non?
D'Izmir, oui. Elle était en couple avec un arménien.
Ouais. Oui, bon.
Mais j'adore la musique sana turque, parce que c'est une musique qui a été aussi ottomane, composée par des Grecs, des Arméniens, des Juifs. Donc, ça fait partie de notre héritage. Je dirais, pour paraphraser ce qu'avait dit Elias Sambar dans cette maison, très bel entretien à l'intellectuel palestinien, c'est pas parce que c'est à nous, mais nous, on est de là. C'est peut-être pas à nous. Ouais. Mais nous, on vient de là, on est de là. Et on ne peut pas nous le nier. Donc, c'est un acte d'amour et de revendication filiale que j'entends faire, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un État qui s'appelle l'Arménie qu'on fait partie de cette Arménie, entre guillemets, réelle, vu que ce n'est pas la même culture, c'est le Caucase, c'est post-soviétique. Alors, on a des liens très très forts avec l'Arménie, de solidarité organique, mais c'était pas, je ne viens pas de là-bas.
Et pourquoi plus Istanbul que Jérusalem ?
Jérusalem, c'est surtout un lieu de pèlerinage, si vous voulez, depuis l'aube de la chrétienté. Les Arméniens ont une relation aussi extrêmement forte avec Jérusalem. Et chaque Arménien qui se respecte faisait le pèlerinage à Jérusalem, peut-être qu'à Etchmiadzin, d'ailleurs il venait avec un tatouage. Mais Jérusalem est à l'extérieur du plateau historique arménien, alors qu'Istanbul, ça a été quand même la capitale culturelle arménienne pendant toute l'époque ottomane. On ne peut pas le nier. Et puis l'Empire ottoman, c'était le réservoir démographique de l'arménité. L'arménité fonctionne un peu comme les iconographies de l'hellénisme. C'est ce que moi je tente ce néologisme, l'arménisme. Constantinople, c'est une des principales iconographies de l'arménisme. J'ai parlé du patriarcat, les cimetières, la littérature, l'architecture de les grands architectes ottomans.
Sinan aussi, Sinan Pacha. L'architecte qui a repensé Sainte-Sophie. Etc.
Voilà, et puis alors ce qui m'a consolé un petit peu quand j'étais à Istanbul après la mort de Alain Dink, que j'ai très peu connu, c'était de voir qu'il y avait des intellectuels d'origine arménienne qui avaient voix au chapitre, qui s'exprimaient dans l'espace public. C'est un truc que je ne pouvais pas concevoir en France.
Oui, vous parlez même d'une maison d'édition arménienne.
La maison Arras, qui est une excellentissime maison d'édition, un vrai pont entre les deux cultures.
Qui siège à Istanbul.
Toujours à Istanbul, et qui a un catalogue très éloquent, en turc, mais aussi en arménien. C'est le journal Agos qui continue encore à paraître. Mais c'est aussi une nouvelle génération d'intellectuels arméniens de Turquie qui ont un regard décomplexé par rapport aux questions identitaires. Et je crois que nous avons besoin d'eux. Peut-être plus qu'eux, ils ont besoin de nous. Et ce qui est très émouvant aussi, parce qu'il y a Istanbul, et puis il y a les cryptos arméniens. Les cryptos arméniens, c'est encore un autre univers. C'est les gens qui n'ont pas gardé, si vous voulez, la langue, mais qui ont une conscience nationale, parce qu'ils savent qu'ils sont d'origine arménienne. Alors, ils sont peut-être islamisés ou alévis, mais ils ont énormément à nous apporter. Et ils attendent beaucoup aussi des Arméniens de la diaspora.
Tigran Yegavian, le temps file. Dites-moi, c'est quoi votre cartographie personnelle, vos lieux, vos villes?
Alors c'est compliqué parce que moi, elle évolue avec le temps. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Lisbonne. Donc moi, mon arménité, c'est d'abord ma chambre à Lisbonne avec le mont Ararat perché. Et puis c'est la Syrie, parce que mon père est Syrie et d'Alep. Et donc moi, j'ai passé mes étés à Alep depuis que je suis tout petit, jusqu'à l'âge de 26-27 ans. J'allais chaque année en Syrie. Donc moi, la langue arménienne, je ne l'ai pas appris en Arménie, je l'ai appris en Syrie. J'ai appris à nager à la frontière syro-turque, en face de la Cilicie, le Liban aussi. Et puis avec la maturité, mon identité était plus arméno-centrée. Je veux dire, j'étais plus intéressé par Erevan parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'ai beaucoup appris à Erevan. Et maintenant, je suis en train de me déterritorialiser à nouveau. C'est-à-dire que je redeviens dans un schéma déterritorialisé.
Vous reprenez l'exode.
Je reprends l'exode, oui, pour mieux prendre soin de nous. Parce que je pense qu'on a besoin de prendre soin de nous dans un contexte effondrement depuis la guerre de 2020 où les Arméniens sont définitivement en quête de sens et souffrent énormément juste de cette injustice, la perte du Karabakh, l'effondrement moral de l'Arménie, qui est un vrai effondrement moral. Mais je crois que la diaspora aussi est extrêmement fragile et polarisée, et donc il faut prendre soin d'elle et donner des outils pour qu'elle se reprenne en main et qu'elle ait un peu plus, je dirais qu'elle ait un narratif. Ce narratif, il manque, parce que jusque-là, ce narratif était porté par des Arméniens du Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient est en pleine déliquescence. Donc il faut penser à de nouvelles pistes, de nouvelles alternatives.
Il nous reste 3 minutes et 2 questions. Vous qui avez tant voyagé, où sentez-vous le mieux battre le cœur de l'Orient chrétien ?
Oh, la grande question. Il y a plusieurs cœurs, hein, mais je pense qu'il faut répondre par la kénose. C'est là où le Christ est le plus dépouillé. Je pense que là, il y a le plus de souffrance, le plus d'humilité, le plus de vérité. Donc, ce n'est pas forcément dans une église, ce n'est pas forcément dans le faste des patriarcats corrompus, des évêchés corrompus, mais dans l'humilité et la souffrance des fidèles qui prient le rosaire dans l'église de Gaza, notamment bombardée, la seule église chrétienne, une des deux églises chrétiennes à Gaza. Donc, je pense que c'est aussi à Damas aujourd'hui. Partout, il y a du sang, de la haine, de la misère et de l'espérance et de l'amour. Je pense que c'est plusieurs lieux, je crois, où on est obligé d'aller à l'essence même de ce qu'est le message chrétien, un message de dépouillement, d'amour, de témoignage, ouais. Et pas être dans le faste culturel, dans l'anthropologie. C'est Mardine, c'est l'Arménie occidentale qui n'existe plus vraiment. C'est ça les vrais pôles pour moi de la chrétienté. C'est d'ailleurs des situations où vous êtes confronté à un choix existentiel. Vous croyez ou vous mourrez.
C'est un peu ce que Jan Patočka, un philosophe tchèque, appelait la solidarité des ébranlés.
Oui, reprise par BHL. Pour parler des Arméniens et des Juifs.
Et dernière question, Tigrane. Vous préférez les villes qui montent vers Dieu ou qui descendent vers la mer?
Ah, je crois que c'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Il faut de l'immanence et de la transcendance. Il faut vraiment être dans les deux. Faut vraiment, parce qu'on est de ce monde, on est dans le monde, on n'est pas de ce monde, mais on a des choses à faire dans ce monde. Et la mer occupe une place centrale dans mon existence, dans ma poésie aussi. Donc je suis obligé, enfin je ne peux pas. C'est pour ça que Beyrouth, Lisbonne et Istanbul sont des villes dans lesquelles je suis comme un poisson dans l'eau, sans faire un mauvais jeu de mots.
Donc Istanbul, Bolis, Constantinople, à la fin ce sont trois noms pour une même nostalgie, celle d'un monde chrétien oriental qui n'a pas disparu mais qui s'est transformé en mémoire active, en fidélité mouvante. Merci Tigrane Yegavian pour cette traversée. Vous êtes sur France Culture, c'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès réalisée par François Connac et préparée par Claire Poinsignon, à la technique Philippe Thibault. Merci beaucoup, à très vite et bon dimanche.